This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viol. C'est Alain Vaquier, réalisé par Bruno Bertrand. Alors cette année-là, c'est aussi, malheureusement, c'est l'année de la fatwa lancée contre Salman Rushdie, un écrivain britannique d'origine indienne. Fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini, c'est l'année où émerge le message fondamentaliste de l'extrémisme religieux. Et c'est de l'année de la libération de l'Europe de l'Est, l'année de du bicentenaire de la Révolution. Et malheureusement, c'est cette année-là que surgit l'intolérance religieuse d'un islam rétrograde. En effet, le 14 février 1989, une fatwa donc réclamant l'exécution de Salman Rushdie est émise sur Radio Téhéran par l'ayatollah Khomeini, guide de la révolution de l'Iran, dénonçant le livre comme blasphématoire envers l'islam. Comme le roman suggère que Rushdie ne croit plus en l'islam, étant lui-même d'origine culturellement islamique, Khomeini le condamne aussi pour apostasie, ce qui, selon l'interprétation actuelle majoritaire de cette religion, est passible de mort. Khomeini précise que c'est désormais la responsabilité de tout musulman d'exécuter Rushdie et ses éditeurs. Alors voici le texte exact de la fatwa. Au nom de Dieu Tout-Puissant, il n'y a qu'un Dieu à qui nous retournerons tous. Je veux informer tous les musulmans que l'auteur du livre intitulé « Les versets sataniques » qui a été écrit, imprimé et publié en opposition à l'islam, aux prophètes et au Coran, aussi bien que ceux qui l'ont publié ou connaissent son contenu, ont été condamnés à mort. J'appelle tous les musulmans zélés à les exécuter rapidement, où qu'ils se trouvent, afin que personne n'insulte les saintetés islamiques. Celui qui sera tué sur son chemin sera considéré comme un martyr. C'est la volonté de Dieu, de plus, quiconque approchera l'auteur du livre sans avoir le pouvoir de l'exécuter, devra le traduire devant le peuple afin qu'il soit puni pour ses actions. Que Dieu vous bénisse tous. » Fin de citation. À la suite de cette déclaration, une récompense va être offerte pour la mort de Rushdie. Celui-ci va être contraint de vivre dès lors sous la protection financée par les autorités britanniques. En 1998, le gouvernement iranien déclare qu'il n'entreprendrait rien pour faire appliquer la fatwa, mais qu'elle ne pouvait être annulée selon la loi islamique. En réalité, je dis en 98, c'est en 90... en 98, c'est-à-dire... près d'une dizaine d'années après. Le 24 février 1989, donc, 5 personnes ont été tuées par la police lors d'une manifestation devant le consulat britannique à Bombay. On est en Inde. Plusieurs autres personnes sont mortes en Égypte et ailleurs. Des communautés musulmanes organisèrent des autodafés publics. Le livre est brûlé allègrement, ainsi que quelques autres d'ailleurs. Des violences vont être commises à travers le monde. Attentats contre des librairies, à l'Université de Californie à Berkeley, contre des bureaux de Riverdale Press, un hebdomadaire du Bronx. Le 11 juillet 1991, le traducteur japonais de Rushdie est poignardé à mort à l'Université de Tsukuba. Et en 1993, à Oslo, l'éditeur norvégien de Rushdie, William Nygaard, survécu de justesse à plusieurs coups de feu. 37 personnes également sont mortes dans leur hôtel à Sivas, en Turquie, qui a été incendié par des manifestants contre Aziz Nesin, le traducteur turc de Rushdie. et voire même que le musicien Cat Stevens déclara lui-même, qui porte le nom de Yusuf Islam, déclara lui-même être opposé aux écrits de l'écrivain et ne montrer aucune opposition à cette fatwa. La controverse soulevée par cette déclaration le poussa à préciser dans un communiqué qu'il n'encourageait pas personnellement l'application de cette fatwa. Après la mort de Khomeini, cette même année, puisqu'il meurt à la fin de l'année 89, Rougi publie un essai de bonne foi, intitulé « De bonne foi en signe d'apaisement » et publie des excuses dans lesquelles il réaffirme son respect pour l'islam. 10 ans après, donc en 99, une dizaine d'années après, l'État iranien annoncera qu'il renonce à appliquer la fatwa, ce qui ne l'empêche pas de mettre quand même à l'index le livre et la personnalité et toute l'œuvre de Rushdie. Alors je disais en commençant que c'est un peu dommage que l'année où l'Europe de l'Est se libère, où on fête le bicentenaire de la Révolution, eh bien un tel obscurantisme soit possible. Je vous propose d'écouter un propos de Salman Rushdie enregistré en 2005. Il répond, c'est le 17 mai 2005 exactement, à Londres, et il répond aux questions à propos des versets sataniques. Il répond aux questions de Laura Adler.
Après qu'on en vienne aux versets sataniques que j'ai relus en vue de cette émission, qui est vraiment un très grand roman, à la fois par son économie d'écriture, par la prolifération de ses personnages, à la fois par sa gémelléité des deux principaux protagonistes. Et je crois, moi je l'ai relu et j'y ai vu autant, sinon plus, un livre sur l'Angleterre de Margaret Thatcher qu'une critique de l'islam. Mm-hmm.
Yeah. Oui. Écoutez, j'étais très agacé. Une des raisons principales qui m'avait beaucoup agacé avec ce qui s'est passé avec les versets sataniques, c'était que il me semblait qu'on ne décrivait pas le livre que j'avais en fait écrit. Et le livre que j'avais écrit, en fait, c'est un roman sur Londres. 75-80% des versets sataniques, c'est un roman sur Londres. Et comme vous l'avez dit, Londres à l'époque du thatchérisme, Londres où les tensions raciales étaient beaucoup plus vives qu'elles ne le sont aujourd'hui, une ville où beaucoup de tensions culturelles étaient alors à leur apogée. Et à ce moment-là, à cette époque-là, les critiques britanniques se plaignaient qu'aucun écrivain anglais n'écrivait sur l'Angleterre, qu'ils écrivaient sur d'autres parties du monde. Et moi, je leur disais, mais attendez, là, il y a un roman sur Londres que vous décrivez comme un roman sur quelque chose d'autre. Et c'était très agaçant. Mais maintenant, un des avantages du fait que les choses se soient calmées, c'est que les gens peuvent maintenant à nouveau lire le livre tel qu'il est et non pas cet autre livre qui était dans l'esprit des gens à l'époque.
Alors nous sommes 25 ans après et donc on peut se poser la question de savoir ce qui se passerait si aujourd'hui Salman Rushdie publiait comme en actualité, les versets sataniques. Alors on peut avoir quelques doutes sur cette possibilité. Et d'ailleurs, lui-même, lorsqu'il a publié l'année dernière son autobiographie et cette vie qu'il a dû vivre de clandestin sous le nom de Joseph Anton, qui était son pseudonyme, lorsqu'il a publié ce livre, il a donné quelques interviews et il pense qu'aujourd'hui, ce livre serait curieusement difficilement publiable.
Salman Rushdie publie ce mardi son autobiographie et impossible de ne pas évoquer la flambée de violence anti-américaine dans le monde arabe après la diffusion d'un film islamophobe. Les versets sataniques, un livre qui critique l'islam, serait difficile à publier aujourd'hui, explique l'écrivain britannique.
La liberté de parole, la liberté d'expression et la liberté sans laquelle toutes les autres libertés disparaissent. C'est la base, le fondement d'une société ouverte. Et la compromettre, c'est compromettre quelque chose de très important pour le type de société dans lequel nous avons tous le privilège de vivre. La littérature, la peinture, les études universitaires, tout est attaqué par différents groupes d'intérêts religieux et les États ne s'y opposent pas.
Depuis 1988,
Salman Rushdie est sous le coup d'une condamnation à mort. Les récents événements ont amené la fondation religieuse iranienne qui a mis sa tête à prix à porter à plus de 3 millions de dollars la prime pour son assassinat.
Alors donc... On peut penser qu'entre 25 ans après, la liberté d'expression est de moins en moins garantie. Quelques mots, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, sur Salman Rushdie. Donc, il est né à Bombay en 1947. C'est un Indien qui pratique la langue ourdou, même s'il écrit essentiellement en anglais. Il a d'ailleurs demandé depuis cette affaire la nationalité britannique, qu'il a bien sûr obtenue. Il écrit des livres qui relève de sorte de réalisme un peu magique. C'est un auteur extrêmement imaginatif. J'aurais tendance à conseiller deux livres. Le premier, c'est « Enfant de minuit », qui a été publié en 1977 et qui a obtenu... Ça a été le premier livre qui a eu... C'était son second livre dans sa carrière. C'est le premier livre qui a du succès. Il a d'ailleurs obtenu le Booker Prize. C'est l'équivalent du Goncourt français. Et puis un autre livre qui est sur l'Espagne, qui s'appelle « Le dernier soupir du mort », publié en 1995, qui est également un très, 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 très beau roman. Tous ces livres sont publiés chez Plon et bon nombre sont en livre de poche. C'est un auteur qui gagne très largement à être connu. Ses influences, il les situe entre Günter Grass, l'auteur allemand, notamment du tambour, et puis Mikhail Bulgakov, l'auteur russe, et notamment un livre qu'il affectionne tout particulièrement, Le Maître et Marguerite. Donc, cette année-là, on fête en France le bicentenaire, et à l'occasion de ce bicentenaire de la Révolution française, on a interrogé Jack Lang sur, précisément, la situation de Salman Rushdie.
Monsieur le ministre, vous êtes tout particulièrement remercié à la quatrième de couverture du livre de Salman Rushdie, soutien du ministre de la Culture et de la Communication et de la République française. Est-ce que pour vous, cette publication est une victoire ?
La France fête son bicentenaire. La France est la terre des droits de l'homme. La liberté d'écrire et de publier a été l'une des premières conquêtes de la Révolution française. Il est normal que tout livre... celui-là ou un autre, ait le droit d'être publié et diffusé. Et le ministère de la Culture l'a parrainé comme il a parrainé des milliers d'autres livres qui ont droit à être publiés en France.
Jack Lang, monsieur Adam, qui est le nouveau recteur de la mosquée de Paris, dit cet après-midi dans le journal Le Monde que Rushdie ne sera pas le dernier à blasphémer le prophète, mais qu'il pense, lui, recteur de la mosquée de Paris, que compte tenu de la difficulté de l'insertion de l'islam dans une société occidentale, les musulmans n'avaient pas besoin de tant de publicité, et le recteur d'appeler au respect des grandes familles de croyants. Alors, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas difficile, quelquefois, de gérer à la fois la liberté de publication et le respect des autres ?
Vous avez raison. C'est une vraie question et je crois qu'il ne faut surtout pas, vous, les dirigeants responsables, blasphémer, offenser, blesser la croyance des autres. Mais personne ne sera contraint de lire ce livre, de même que personne n'avait été contraint d'aller voir le film tant controversé sur Jésus-Christ. Nous sommes un pays de pluralisme et de diversité. Il faut que chaque mouvement de pensée ait le droit à l'expression. Mais naturellement, comme l'explique très justement la Déclaration des droits de l'homme, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Et par conséquent, le devoir de la puissance publique est d'assurer un arbitrage entre la liberté des uns et des autres. Nous sommes le pays de la tolérance et de l'ouverture. Et en particulier, nous respectons la communauté musulmane qui, ici en France, a plein droit de cité. Et comme nous sommes en plein bicentenaire. Vous voyez aujourd'hui le Premier ministre...
Nous allons parler du bicentenaire dans une seconde, monsieur le ministre. Une question, vous êtes sans doute en contact avec le ministre de l'Intérieur, votre collègue. Est-ce que des mesures particulières ont été prises demain dans les centres qui vendront ce livre de Salman Rushdie ?
Le ministre de l'Intérieur a toujours le souci de préserver la sécurité des biens et des personnes. Vous vous souvenez avec quelle efficacité il avait réussi à faire arrêter ceux qui voulaient dans les salles de cinéma empêcher de la diffusion du film sur Jésus, eh bien je crois qu'avec la même fermeté, nous veillerons à la liberté de diffusion de ce livre comme de tous les autres livres. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire un cas spécial. Tout livre publié a le droit d'être diffusé dans un pays qui s'appelle la France, qui est un pays de liberté.
Voilà les propos de Jack Lang, donc, qui s'exprimait sur la liberté d'expression qui, dont aujourd'hui on pourrait se demander si elle est toujours aussi active. Alors cette année-là, en 89, donc, eh bien, en France, pour y revenir, on inaugure beaucoup. Alors on inaugure la pyramide du Louvre et donc le Grand Louvre, qui est ouvert au public dans sa formule actuelle le 1er avril 89. On inaugure également l'Opéra Bastille, qui est une façon un peu indirecte, à cause de la place, de fêter aussi le bicentenaire. Et le 14 juillet, alors là, c'est un énorme succès, bien entendu. On fête le bicentenaire en grande pompe, avec un défilé sur les Champs-Élysées, défilé organisé, mis en scène et pensé par Jean-Paul Goude, qui est un metteur en scène de défilé de mode, un artiste à n'en pas douter, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus fort, de plus puissant concernant la commémoration de ce bicentenaire. Alors, nouvelle plus triste, c'est cette année-là que Jean-Marie Djibaou, le président des Kanak de Nouvelle-Calédonie, est donc assassiné par des extrémistes de son camp. Trois ans, oui, après les accords d'Ouvéa, et qui ont vu la paix s'instaurer entre la Nouvelle-Calédonie et la France grâce à l'intervention assez décisive du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard. Et bien, trois ans plus tard, Jean-Marie Djibaou est donc assassiné par des extrémistes. Et l'on voit que ces années-là, qui sont en même temps, les choses sont ambivalentes. Ce sont des années d'émancipation, de liberté, et en même temps, des années qui voient monter des extrémistes et des extrémistes violents. Et on est aujourd'hui en plein dedans. Cette même année, c'est aussi une année où on arrête bien tardivement et très très tard Paul Touvier, qui était donc l'ancien chef de la milice de Lyon et qui a donc contribué à faire déporter énormément de gens à Lyon et dans la région lyonnaise et qui a donc collaboré avec le régime nazi. Et c'était donc le 24 mai. Alors 89, c'est aussi, sur le plan musical, c'est aussi l'année des 70 ans d'un grand, grand musicien de jazz, Art Blakey, le créateur des Jazz Messengers, qu'il va mener du tout début de sa carrière jusqu'à la fin. C'est un musicien, c'est un drummer, c'est un musicien, un batteur très, très original qui intègre à la fois la nouveauté du bebop, du style bebop, et en même temps beaucoup d'influences africaines avec un jeu qui lui est très particulier. Et donc en Europe, en Allemagne très précisément, on va donc organiser un très très grand concert pour ses 70 ans. Et tous les musiciens qui sont passés par les Jazz Messengers, et ils sont très nombreux, on pourrait citer Benny Golson, Herbie Hancock, Mal Waldron, beaucoup d'autres, la liste serait très très longue. Même Miles Davis, Wayne Shorter, et encore beaucoup. Donc beaucoup de ces musiciens vont donc venir à ce concert en Allemagne et jouer avec pour les 70 ans d'Art Blakey. Je vous propose d'écouter deux extraits, non pas de ce concert, mais deux enregistrements réalisés en 89 par Art Blakey. Thank you. When Your Lover Has Gone, une composition de Heiner Swan, interprétée donc par le quintet de Art Blakey. Alors une précision, j'ai dit que c'était des enregistrements de 89. En fait, ce sont des enregistrements qui sont sortis en 89, qui ont donc été remasterisés, mais qui avaient été enregistrés en 1960 pour la marque Blue Note, qui sont donc ressortis en 89. Probablement à l'occasion des 70 ans d'Art Blakey. Alors, c'est une formation un peu de rêve, surtout quand, avec le recul, quand on l'écoute aujourd'hui. À la trompette, il y a Lee Morgan. Au saxophone ténor, il y a Wayne Shorter. Au piano, Bobby Timmons, le compositeur de Moonin, morceau très, très célèbre des Jazz Messengers. Jimmy Merritt à la contrebasse et Art Blakey, bien sûr, à la batterie. Ce concert était dommage pour ses 70 ans, était d'autant mieux bienvenu qu'il devait décéder l'année suivante, en 1990. Je vous propose d'écouter un deuxième morceau par ce très beau quintet. Ça s'intitule « Sincerely Diana ». C'est sur cette belle composition de Wayne Shorter, Sincerely Diana, que nous allons terminer cet épisode consacré à l'année 89. Demain, ce sera le dernier épisode, mais ce sera aussi une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours, cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.